Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue pour cette rencontre en compagnie de Anne Weber, de Marius Daniel Popescu, de Bessam Iftiou et de Velibor Cholic. Bonjour à tous les quatre et merci beaucoup de votre présence. Quatre écrivains donc qui ont la particularité d'avoir quitté leur pays d'origine pour s'installer en Suisse en ce qui concerne Marius Daniel Popescu et Bessam Iftiou, en France en ce qui concerne Velibor Cholic et Anne Weber, et qui donc ont connu comme ça un exil, un déplacement géographique qui est aussi évidemment un déplacement dans la langue. Alors on va essayer de réfléchir avec eux sur la relation qu'ils entretiennent à la fois avec leur langue maternelle, leur langue d'origine, et puis la langue, en l'occurrence le français, qu'ils ont découvert dans leur pays d'adoption. Enfin, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, vous me le direz peut-être au fil de cette discussion. Essayer de réfléchir avec eux sur la manière dont cohabitent finalement ces différentes langues, à la fois d'un point de vue personnel, mais plus précisément, évidemment, au niveau de l'écriture, au niveau des enjeux littéraires, au niveau de la forme, au niveau de l'inscription peut-être dans une tradition littéraire. Enfin voilà, on va essayer de faire le tour avec nos quatre écrivains de ces questions-là. Je vais très rapidement vous présenter les uns et les autres et peut-être vous poser une toute petite question d'introduction, de manière à ce qu'on puisse aussi poser un petit peu les choses et savoir très précisément ce que les uns et les autres, comment est-ce que les uns et les autres cohabitent avec ces deux langues. Donc vous, Anne Weber, vous êtes née en Allemagne, vous vivez en France depuis bientôt une trentaine d'années, vous publiez... Ce n'est pas très poli, disons 20 ans alors. Vous avez publié à ce jour 5 romans qui ont la particularité d'avoir été publiés à la fois en France et en Allemagne de manière à peu près simultanée. Vous avez publié vos 4 premiers livres au Seuil et vous avez publié votre dernier livre dont on aura peut-être le temps de dire un mot, qui s'appelle Tous mes voeux, et cette fois-ci c'est chez Actes Sud. Voilà, donc on reviendra sur cette particularité. Et peut-être est-ce qu'on peut en dire un mot d'ailleurs tout de suite, parce que on verra que ce n'est pas le cas des autres écrivains. Vous, je le disais, vous publiez à la fois en français et en allemand, et systématiquement vos livres sont dans les deux langues. Alors peut-être est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la manière dont ça se passe, si vous écrivez dans l'une ou l'autre des deux langues et que vous passez ensuite par l'exercice de la traduction, ou si au contraire vous écrivez indifféremment français et allemand, si vous écrivez les deux versions en même temps, l'une après l'autre. Enfin voilà, peut-être nous dire un petit mot vraiment de votre atelier de travail et de la manière dont vous gérez comme ça ces deux langues et ces publications dans deux langues différentes.
C'est deux choses chez moi complètement séparées. J'écris d'abord dans une langue. Enfin, je ne mélange pas les deux langues en écrivant. J'écris d'abord une version. Au début, c'était la version française. Maintenant, c'est la version allemande que j'écris d'abord. Et ensuite, j'établis une deuxième version, mais je ne réécris pas le livre. Comment dire, je ne le mets pas le livre de côté et j'essaie de me souvenir et je le réécrirai. Non, c'est vraiment une sorte de traduction, mais de traduction très libre, au sens où je peux tout me permettre avec mon propre texte. Il n'y a pas de fidélité qu'on m'imposerait. Il n'y a que moi qui décide de ce que j'ai envie d'en faire. Donc je peux très bien sauter des passages ou
d'accord, donc modifier, les deux livres ne sont pas
dans exact... un autre sens. Les deux livres sont toujours différents l'un de l'autre, mais ce ne sont pas deux livres complètement de nous. Enfin, ça n'est pas un nouveau livre que j'écris en faisant la deuxième version.
D'accord. Alors, c'est simplement comme ça, faire un petit tour. Je vais passer à vous, Bessam Iftiou, si vous le voulez bien. Vous êtes né en Albanie. Vous vivez en Suisse depuis le début des années 90. Vous avez publié des recueils de poèmes. Vous avez publié également des essais littéraires, deux romans, dont Ma légende et Confession des lieux disparus, hein, dont vous me disiez qu'il était de nouveau disponible en format de poche. Je crois savoir que vous aviez publié votre premier recueil de poésie aussi dans dans les deux langues, à la fois en albanais et en français. Peut-être nous dire un mot, là aussi, très simple, d'introduction pour poser les choses et les termes de la discussion sur le rapport que vous avez aujourd'hui. Vous écrivez aujourd'hui en français exclusivement. Est-ce que vous traduisez vos textes? Est-ce que vous écrivez encore en albanais? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux langues aujourd'hui?
J'ai écrit en français depuis 1994. Donc, ma première approche dans les deux langues était justement dans le livre, dans le recueil de poèmes des Amis perdus, qui est le seul livre bilingue. Et pendant tant d'années, je me suis détournée de ma langue maternelle et j'ai écrit uniquement en français. Mais, il y a toujours un mais, depuis quelques mois, je vis une expérience tout à fait étrange et exceptionnelle. Je traduis mon roman « Confession des lieux disparus » en albanais. Après avoir abandonné la langue albanaise durant, disons, plus de 10 ans, pendant 15 ans, j'ai jamais rien écrit en albanais, vu que je travaille à l'université et je suis soumise à des lectures très soutenues et un travail en français vraiment très intensif. Donc, j'ai pas eu le temps de lire pour le plaisir, me retourner de l'albanais. Et maintenant que j'ai écrit en albanais, donc mon propre livre, c'est à la fois jouissif, puisque comme Anne, je peux me traduire n'importe comment. Et si ça ne me plaît pas quelque chose, je supprime. Ah, mais j'ai dit non, ça c'est pas beau. Et si ça ne va pas en albanais, de nouveau, je supprime. Mais si j'aime changer, je le change. Mais il y a quand même des passages assez difficiles à traduire dans ma langue maternelle, comme par exemple, j'ai beaucoup buté sur une phrase qui était un peu de l'ordre philosophique, qui disait « ignorer le mal pour qu'il cesse d'exister ». J'avais beaucoup de mal à traduire cette pensée en albanais. Donc, mon livre en albanais ressemble à ce que j'écris en français, mais selon ceux qui l'ont lu, il est un livre tout à fait différent. Il s'agit donc d'une sorte de traduction, mais pas d'une traduction. En effet, l'âme, c'est une traduction de l'âme. C'est pas une traduction de mots. J'ai raconté cette histoire une fois en français, et puis après, j'ai retrouvé une autre âme pour le dire en albanais.
Velibor, je me tourne vers vous. Votre expérience est encore différente puisque vous êtes né en Bosnie. Vous êtes réfugié en France au début des années 90. Vous avez publié un certain nombre de livres en serbo-croate, dans votre langue maternelle. Et puis, vous avez publié deux livres, les deux livres les plus récents. Le livre précédent qui s'appelait Archange. Et puis, le dernier livre qui vient tout juste de paraître donc aux éditions Gaïa, qui s'appelle Jésus et Tito, ou qui va paraître là ces jours-ci. À la fois Archange et celui-ci sont des livres que vous avez publiés en français. Donc peut-être nous dire un mot là aussi de ce passage. Vous aviez déjà publié 5 ou 6 livres dans votre langue et vous avez décidé au moment d'Archange de passer au français et vous avez poursuivi avec Jésus et Tito dans cette direction-là. Donc peut-être nous dire un mot des raisons qui vous ont fait passer comme ça au français. Est-ce que c'est finalement une familiarité que vous avez eue avec la langue française au bout d'un certain temps, ou est-ce que c'est des raisons littéraires ou autres aussi liées au sujet de vos livres?
D'accord. Il faut que je dise que au moment que je suis arrivé en France, je connaissais 3 mots français, Jean-Paul et Sartre. Je ne connaissais pas du tout. Là-bas, chez nous, on a appris à l'école l'allemand, parce qu'il faut aller travailler comme gastarbeiter en Allemagne, l'autre côté de la Suisse, et anglais pour comprendre qu'est-ce qu'il chante Lou Reed. Donc je suis arrivé en France, je suis entièrement autodidacte, j'écrivais toujours dans ma langue, j'ai fait des études de serbo-croate, c'était la langue commune de tous les Yougoslaves qui est disparue ensemble avec le pays. Je me suis trouvé à 28 ans quoi, de prof de quelque chose qui n'existe plus. C'est pas grave. Le latin, il a disparu, sauf que serbo-croate, il s'est fait assassiner. C'est une langue. On peut assassiner une langue. On peut assassiner. On a vu, malheureusement, en Europe du XXe siècle qu'on peut assassiner plein de choses. On peut assassiner une culture, on peut assassiner une langue, la mémoire, etc., etc. Donc, au moment que j'ai vu que à la France, ça se passe plutôt bien quoi, avec mes petits livres, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à comprendre qu'il y a là et le. Ça, c'est très important. Mes premières, j'habitais à Strasbourg, vous voyez, à l'est de France, mes premières courses, c'était spectaculaire, parce que j'avais faim, et je demande au supermarché, madame, manger, lapin. Je voulais acheter une baguette. Elle m'a dit, lapin, lapin, mangez, madame. Vous voyez l'écrivain ? Elle me ramène et je vois la pauvre bête dépecée comme ça, lapin. Le pain, elle m'a dit, c'est boulangerie premier étage. Voilà, je découvre la France comme ça. Et bien évidemment, la française, la langue française qui est magnifique, qui est un extraordinaire joujou, c'est une sorte de Rubik's Cube. Je ne vole pas votre langue française, si c'est votre langue. Je le prends, je fais comme le Rubik's Cube et je veux rendre à la fin pour mes petits livres. Voilà, je voulais dire, c'est la vie, quoi. Moi, je me suis fait expulser de mon pays. Là, il y a quelques jours, j'étais avec un monsieur qui a 97 ans, Boris Pahor, qui est un écrivain, un Slovène de Trieste, comme ça, qui m'a dit, pendant 40 ans, j'ai cru qu'il était déporté à Auschwitz. Pendant 40 ans, j'ai cru que je suis dernier déporté européen. Et là, il faut que tu viennes me corriger. En fait, finalement, j'espère, moi, que j'étais dans le camp en Bosnie, que je suis dernier prisonnier bosniaque, européen, ou comme vous voulez. Voilà, cette histoire, on s'est fait virer dans notre pays. Tout ce que j'aimais, tout ce que j'ai connu, tout que je savais faire n'existe plus. Le lieu où je suis né, où j'ai essayé d'écrire dans mon livre, Jésus et Tito, c'est un concept, ma mère, très catholique, papa très coco, voilà, ça donne ce bataille à la maison. Voilà, il y avait les vestiges de synagogue, pour finir, les vestiges de synagogue, séfarades, il y avait les mosquées. Moi, je me suis fait bercer par les chants d'imams, l'église catholique orthodoxe. Mon père était allé dans le village, il a dit là où il y avait le mosquée, c'est un parking, là où il y avait l'église catholique, c'est un supermarché. Je pense que c'est urgent communiquer ça. Je suis en France, enfin francophone, et tout ça comme ça. Je communique avec mes moyens d'écrivain dans la langue française qui peut nous rassembler ici en Suisse ou au Canada ou ailleurs. Quoi. Voilà pourquoi le français.
Marius, on va passer à vous. Donc vous êtes, vous, né en Roumanie. Hein. Vous vivez, je le disais, en Suisse depuis le début des années 90. Vous aviez, je crois, publié déjà des recueils de poésie en roumain. Et vous avez ensuite publié en français deux recueils de poésie, dont un qui s'appelle Arrêt déplacé, l'autre qui s'appelait 4x4. Et puis vous avez publié aussi un roman qui s'appelle La Symphonie du Loup, qui a été publié aux éditions José Corti. Je précise que vous êtes aussi à l'origine de ce journal dont on voit des exemplaires ici, qui s'appelle le Persil, que le public pourra découvrir tout à l'heure. Là aussi, même question que pour les précédents auteurs, un petit mot sur les raisons ou sur la manière dont vous avez fait ce changement, cette rupture, cette articulation vers la langue française, et notamment dans ce texte, La Symphonie du Loup, qui est un récit dans lequel vous revenez aussi sur la Roumanie, finalement, de votre enfance. Donc peut-être, voilà, très simplement, nous dire voilà, la relation que vous avez avec le français et les raisons pour lesquelles. Est-ce que c'est simplement parce que c'est votre langue quotidienne, votre environnement quotidien, que vous avez eu envie d'écrire en français ? Est-ce que ça s'est imposé, finalement, naturellement ? Ou est-ce que ça a été véritablement un choix de votre part ?
Ben voilà, donc au début des années 1990, je suis venu, mais c'est mieux de dire, j'ai atterri en Suisse comme asylant amoureux, parce que je n'ai pas demandé asile politique ou économique, je suis tombé amoureux d'une Suissesse, ça compte dans le passage individuel, malgré le fait que j'avais vécu la dictature. À l'époque, j'étais le patron d'un journal politique en Roumanie qui marchait très bien, hebdomadaire dans la deuxième ville du pays. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui aime connaître l'endroit où il vit. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de différences entre les cantons suisses, beaucoup de différences entre les communes du même canton en Suisse. Bah, c'est la même chose en Roumanie, il y a beaucoup de différences entre les communes du même district, du même département. Tu peux changer de département, tu parles la même langue, mais il faut s'adapter aux gens influents, aux coutumes, aux règles et tout ça. Donc, une fois en Suisse, comme je ne parlais pas du tout le français, j'ai réalisé que je dois tout prendre à zéro, la langue, les gens, les coutumes, les habitudes, la diversité, parce qu'en Roumanie, on n'avait pas cette diversité de langue et d'origine et de religion. Et j'ai commencé d'une manière en autodidacte, d'une autre en utilisant mes capacités d'ingénieur forestier, parce que j'ai fait des études d'ingénieur forestier. À un moment donné, j'ai même fait 2 ans de sociologie en faisant la navette entre Lausanne et Genève, 2 ans de sociologie à l'université de Genève, parce que les Lausannois n'ont pas voulu de moi. Et j'ai connu, je fais la parenthèse, 2 grandes stars de la sociologie genevoise, Willy Windisch et notre cher monsieur de gauche qui est maintenant à FAO, Fédération pour les pauvres. Donc voilà, monsieur Ziegler. La langue, j'ai réalisé que j'ai aucune chance d'écrire toujours en roumain tout en vivant en français, parce que plus je vivais en français, plus j'apprenais et je sentais et je découvrais et j'inventais avec la langue française. Donc je me suis dit, il faut que je m'y mette parce que je vis en français, donc je rêve, je me rends pas compte que je suis étranger, je me rends pas compte que vous êtes étranger, donc il faut que je continue dans cette langue. Et ça a marché gentiment. Et maintenant, je suis le premier Suisse roman à avoir reçu le prix Robert Walter. J'ai mon journal littéraire où je publie des jeunes et des moins jeunes, des connus et des moins connus. J'ai publié à Paris chez José Corti, qui est quand même un éditeur pas mal, qui a édité aussi en roumain, Gerasim Luca, un grand poète. Et bien sûr, je suis touché par des gens comme ceux qui sont à ma droite, par Anne Weber là aussi, par le public, parce que j'apprends toujours, je ne sais pas, depuis petit peut-être, je suis touché sans arrêt par ce que je vis, que ce soit en roumain, en Roumanie, ici en français, en Suisse allemande, en France, en Allemagne, à Berlin, ou même en Iran, où j'étais invité il y a 1 an et 4 mois par l'ambassade de France en Iran pour représenter la francophonie.
Alors justement, j'aimerais bien que Bessa et Vélibor réagissent, puisque je disais à l'instant que Marius écrivait sur la Roumanie de son enfance, sur une Roumanie finalement qui n'existe plus. C'est aussi votre cas, l'un et l'autre, dans Confession des lieux disparus. Il est question de l'Albanie de votre enfance, une Albanie qui, là aussi, n'existe plus. Vélibor, vous, dans votre livre, vous dites que votre pays est maintenant Communist Park, c'est Jurassic Park, mais version ex-Yougoslavie. Alors peut-être un petit mot sur la distance comme ça qu'on peut aussi créer avec une langue. Quels sont finalement les enjeux qu'on peut avoir lorsqu'on parle de son propre pays, à la fois d'un pays qui a disparu, dans une langue qui n'est pas la langue qui était celle que vous utilisiez à ce moment-là, finalement. Là, il y a quelque chose dans la distance qui est quelque chose, sans doute, d'important aussi pour un écrivain, dans la prise en compte et dans la mise en scène, dans la fictionnalisation, ou en tout cas dans l'écriture d'un pays comme ça, disparu.
En effet, c'est pour parler de mon pays que j'ai changé de langue. Parce que je voulais écrire en français par un besoin très fort de témoigner. Et il n'y a aucun intérêt de dire ce qui s'est passé à ceux qui le savent. Donc, un public étranger était pour moi un public idéal, parce que je pourrais dire tout dans une liberté, en ayant une liberté que j'aurais jamais eue dans mon petit pays où tout le monde se connaît. Et que j'aurais dû respecter beaucoup de secrets, j'aurais dû me dire « Ah non, je ne peux pas écrire ceci parce que la voisine, elle va dire peut-être qu'elle parle de ma fille. » Et je me souviens, je suis fille d'écrivain, et je me souviens que ma tante préférée a fermé définitivement le livre de mon père à la page 34 parce qu'il parlait d'une fille, il parlait d'une sœur qui ne voulait pas aller chez les partisans. Et puis après, ça restait là, l'histoire. Alors, elle était très fâchée, elle s'est reconnue. Elle a dit, non, mais moi, après, je suis allée chez les partisans. Et mon père avait beau lui expliquer qu'en effet, il s'agit d'un fait littéraire, que les écrivains prennent de la réalité les éléments qui les aident à créer des personnages, et puis ils sont libres. Donc, le besoin de témoigner et le besoin d'une liberté absolue et le manque de jugement sur ce que j'allais dire m'ont poussé vers le français. Je peux dire également que le fait d'écrire en français m'aide aussi à déclarer mon amour à mon pays d'origine, donc mon pays natal, parce que je peux dire que mon œuvre est quelque part une déclaration d'amour pour l'Albanie, et le français me permet d'être pudique. On ne peut pas dire les mots d'amour en premier degré. Et aussi, le français me permet également de prendre une distance avec ce qui s'est passé. Et la mélancolie, elle s'illumine si on utilise d'autres mots que ceux qu'on a utilisés pour la ressentir. Donc le français me permet quelque part de sourire des petites détresses et de savourer ce bonheur précieux, des moments de bonheur précieux vécus sous la dictature.
Vélibor, un mot à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a trop d'étrangers dans le monde, 6 milliards et demi. Et moi, je suis tout seul. Non, je pense, ça c'est clair, plus j'habite en France, plus je suis balkanique, si vous voulez. Plus j'écris en français, plus mes thèmes sont balkaniques, si vous voulez. Moi, j'ai essayé de capter, donc, dans mon livre, un drôle d'oiseau qu'ils appellent la mémoire. Je pense que notre mémoire parle dans une langue étrangère, même pour nous-mêmes. Donc, nous ne maîtrisons pas toujours tous les signes. Donc, je pense que notre mémoire peut et doit être traitée comme des rêves. Moi, que j'écris au moment, et c'est simple, c'est très, 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 très technique. Il y a un interrupteur, n'est-ce pas? On-off. Quand j'allume mon petit Mac, je mets on français, je pense et j'écris en français. Il faut dire que cette langue, je répète, cette langue, elle est formidable pour un autodidacte. J'ai commencé à apprendre la langue avec Tintin et Milou, parce qu'il y avait l'image plus texte. C'était pas mal et j'ai compris vite fait que le barbu qui est ivre, il ne parle pas la même langue que le petit blond qui est gentil comme ça. Voilà, le français me permet d'être entièrement l'homme des Balkans. Vous savez quoi, là, si on parle, voilà, la voisine, on pourrait demander, si on parle des Balkans, les Balkans, c'est vous qui vous avez inventé à l'Occident. Le Balkan là-bas, il n'existe pas. Moi, je rigole, je dis toujours, c'est... Est-ce que c'est Jean-Paul Sartre qui a écrit « Les Balkans, c'est les autres » ? Si vous allez en Serbie, on va dire « Les Balkans, c'est les autres ». Donc finalement, il faut partir. J'habite en Bretagne, à la fin du monde. Il fallait partir à 3000 km de chez moi pour découvrir que je suis vraiment entièrement balkanique, que j'assume. Ça ne va pas dire que je ne mets pas de déodorant, que je prends ma douche. Je suis étranger, mais propre, si vous voulez. Les propres étrangers. Voilà, il n'y a aucun problème. La langue française, c'est une passerelle. C'est extraordinaire. Je viens d'un pays du sud, où c'est très important de communiquer, parler et se comprendre. L'enfer, une des définitions de l'enfer, c'est habiter quelque part et ne rien comprendre. Il y a plusieurs concepts. Donc voilà, la rivière, rive gauche, les gens qui sont nés avec le français, la langue, peu importe où, la rive droite, c'est pas politique, c'est juste pour... La rive droite, c'est nous, français, un peu avec le drôle de nom, il y a une passerelle entre nous deux, entre français et le français avec accent, et on peut traverser de deux côtés, il n'y a pas la douane, on peut se même donner un rendez-vous. Comme ça, donc voilà, j'essaie de communiquer, c'est normal pour les écrivains, j'essaie de raccourcir l'histoire technique, logistique entre le manuscrit et le livre, et voilà, ça donne le livre, voilà.
Anne Weber, peut-être un mot aussi, peut-être plus précisément sur la question du style et de l'écriture. Évidemment qu'un écrivain est celui qui essaye d'inventer une langue, ou en tout cas d'être comme ça dans une recherche formelle, ou dans le style, dans le ton, dans la musicalité, pour donner un regard sur le monde. Est-ce que, précisément, lorsqu'on travaille sur une langue qui n'est pas sa langue maternelle, on a plus de facilité, là aussi, une autre distance à à s'écarter peut-être des lieux communs de la langue, à affirmer une forme de voix, ou au contraire, est-ce que c'est une difficulté à l'apprivoiser? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne, cela, dans l'affirmation d'un style?
Oui, alors c'est à la fois une énorme difficulté, et je crois que tous les quatre qui sommes là, on a sans doute une forme d'inconscience totale de nous imaginer on va pouvoir écrire dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, parce que les difficultés sont tellement énormes. Enfin, c'est une langue tellement riche, et nous on a tous écrit appris le français tard, adulte, enfin moi un peu à l'école, mais vraiment en France plus tard. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas rattraper. C'est on ne peut plus jamais, on ne pourra faire du français notre langue maternelle. On aura toujours cet éloignement, et alors éloignement égale distance, et donc c'est aussi un avantage, ça peut être aussi un avantage, mais il y a aussi une forme d'imposture dans le fait de s'imaginer qu'on peut le faire. Mais peut-être que ce n'est pas seulement d'écrire dans une langue qui n'est pas la vôtre au départ, mais d'écrire tout court, qui est une imposture. Bon, ça, c'est pas, je ne suis pas la première, ce n'est pas une idée très originale, mais il faut peut-être une forme d'inconscience, et on y va quand même, on le fait, bien qu'on ne sache pas le faire. Et en tout cas, pour moi, j'ai essayé de faire de cet handicap au départ, et de cette incapacité partielle, un avantage, de tourner ça en avantage et de tirer bénéfice de cette distance qui existe entre le français et moi, et qui fait que, par exemple, quand on écrit, il y a des choses qui... Comment dire, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on fait, à ce qu'on écrit et à ce qu'on dit qu'en parlant ou en écrivant dans sa langue maternelle, je crois. Parce qu'on regarde les mots de l'extérieur, les mots ne font pas partie de vous, de votre corps, ne vous constituent pas de la même manière que les mots de la langue maternelle. Et du coup, il y a des tas de conventions de langage, par exemple, qu'on évite plus facilement parce qu'on n'a pas intériorisé des formules. On a cette distance qui restera toujours là.
Marius, peut-être un mot aussi sur le style, sur l'écriture à proprement parler. Dans la Symphonie du Loup, vous avez une écriture qui est comme ça, une écriture très, très ample, avec très peu de ponctuation, quelque chose comme ça de l'ordre de la logorée. Vous avez aussi une écriture qui est très cyclique, où il y a énormément de répétitions, comme ça, quelque chose de très circulaire. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que c'est dans le français que vous avez aussi trouvé ce ton, cette musique qui vous est si particulière?
Je crois que j'ai trouvé ce ton tout d'abord en moi-même, dans ma relation avec les autres, avec le monde qui m'entoure. Je crois que je n'ai plus de langue maternelle, parce que ma relation avec ma mère, je suis devenu assez vite adulte, donc j'ai complètement oublié que j'ai une langue maternelle. Le français, elle peut être la langue de ma deuxième vie, parce que c'est ici que je suis né. Vraiment, socialement, politiquement, intellectuellement, et comme une langue maternelle la deuxième fois en Suisse. Moi, je fais la différence entre écrire des livres et faire de la littérature. Moi, je crois que n'importe qui, de nos jours, en 2010, dans n'importe quelle langue, peut écrire un livre. Il n'y a pas de problème. Écrire des livres et même les publier, à droit d'auteur ou pas, ça, c'est déjà banalisé, et c'est normal, parce que chacun a le droit de s'exprimer et peut s'exprimer et écrire son livre ou autant de livres qu'il veut. Mais faire de la littérature, moi je crois que c'est complètement autre chose. Justement, faire de la littérature, on peut réinventer la roue, On peut écrire comme quelqu'un d'autre qui a écrit en allemand ou en français ou en roumain ou en serbo-croate. On peut réinventer un autre style et quelqu'un qui nous lit dit mais ouais, c'est très bien, c'est joli, mais t'es romantique, t'as écrit comme tel et tel. Il faut que tu trouves ta voix, il faut que tu entres dans ce cercle de la littérature. La chose elle est simple, dans le sens de faire de la littérature, la culture de la langue française et le public que la langue française offre maintenant à un roumain comme moi, à un ex-roumain quelque part, mais je suis toujours roumain parce que j'ai seulement le passeport roumain, cette langue française offre beaucoup plus d'ouverture par les prix, par les auditions, par les clients potentiels, par les lecteurs, par la sérieuxité, par le sérieux dans lequel on est traité, les écrivains, en Suisse ou en France, ces deux pays-là, je les connais très bien. Par contre, dans mon roumain natal, en Roumanie, ça va très très mal. Je considère le gouvernement actuel comme un gouvernement criminel, parce que, par exemple, un monsieur historien a découvert qu'il y a eu beaucoup de crimes du communisme, donc environ 10 000 exécutions sommaires, et il a trouvé les fosses communes où ces gens-là ont été enterrés sans croix, sans rien, parce qu'on est des orthodoxes là-bas chrétiens. Et il a voulu les sortir, et le gouvernement ne veut pas l'empêcher, l'empêche toujours de faire ça. Donc c'est un gouvernement criminel, donc je veux rendre compte d'une manière littéraire de cette actualité roumaine qui tient compte de ce passé communiste. Mais en même temps, comme vous parliez tout à l'heure, moi j'ai 20 ans de passé suisse, j'ai 20 ans de souvenirs suisses. Et ici, dans ce livre Arrêt déplacé, j'ai parlé de la Suisse et des poèmes où je parle des clients de bus, de gens comme vous et moi, comme n'importe qui, de tous les métiers, dans leur banalité que je sacralise. Donc j'ai 27 ans de Roumanie et 20 ans de Suisse. Bientôt, si le bon Dieu m'aide, bah, je vais faire match nul. Et après, je vais repartir. Et bien sûr, je reviens sur la langue française et la culture francophone de Suisse romande et de la France. Et d'ailleurs, j'étais en Afrique une fois en Côte d'Ivoire et j'étais étonné par le bon, sublime français que des élèves de 14 ans parlaient en Côte d'Ivoire, dans des boui-boui complètement perdus. Ils parlaient un français de Balzac, de Baudelaire, de Zola. C'était ce français qu'on leur enseigne là-bas. Bien sûr, ils sont pauvres, comme les Roumains maintenant, comme les Roumains d'avant. Mais la langue, elle est extraordinaire. C'est pas la langue ici que j'entends dans les bus. Ouais, quoi, t'as vu, ouais, machin, voilà. Ah non, c'est pas ça. Et maintenant, pour vous laisser continuer, bien sûr, quand mes Roumains vont inventer le prix Goncourt ou d'autres prix et bourses, je pense que je retournerai à écrire en roumain parce que j'ai perdu rien du tout de mon roumain. Je peux écrire n'importe quand en roumain. J'ai écrit 5 livres en roumain quand même, mais j'ai pas du tout envie maintenant de faire marche arrière vraiment au sens propre et au figuré, parce que je suis très bien en français, je vis en français, ma fille, sa langue maternelle est français, on rigole en français. Il n'y a aucun problème. Et justement, quand on parle de démocratie, il faut qu'on admette qu'un individu ou dans une famille, on parle au moins deux langues, 3, 4, 5, 8 ou 9, parce que je connais aussi des Roumains qui sont antisémites, racistes et autres. Et ça, c'est parce qu'ils n'acceptent pas la différence d'une langue ou d'une autre culture ou d'une autre société. Et ça, ça me rend malade et ça me donne un autre sujet d'écriture, mais je l'écris en français. Merci.
Alors, je vais vous donner la parole si vous souhaitez intervenir. Je voudrais quand même entendre les deux autres sur cette question de l'écriture, et notamment vous, Vélibor, puisque je parlais du roman précédent qui s'appelait Archange, qui était un roman à quatre voix, hein, qui était d'ailleurs sous-titré roman a cappella. Dans ce livre-là, Jésus et Tito, il y a aussi quelque chose de très fort, me semble-t-il, autour de l'oralité, autour de... comme ça, de l'écriture de l'oralité, à la fois dans le dialogue, mais aussi dans la vivacité de votre écriture et de votre style. Un petit mot aussi sur cette question de la manière dont vous affirmez un style dans la langue française.
Ah, ben voilà, je reviens de... dans ma mémoire où je me rappelle les choses. Je disais, c'est très très drôle comme oiseau, la mémoire comme ça. Par contre, mes soucis en écrivant Jésus et Tito, vous voyez quand même, c'est vaste comme le programme, je suis un peu gonflé. J'avais le souci de l'universalité de mon histoire. Je explique rapidement. Pendant plusieurs fois, on fait le compte de la littérature balkanique comme ça, à tel point que si on essaie à sortir un livre avec happy end, ou drôle, ou tendre, nos lecteurs, notre public est un peu déçu. Parce qu'on en vient de Yougoslavie, on écrit les choses tendres et drôles. Où est le massacre? Où sont les camps de concentration comme ça? Donc mon souci, il était là. Est-ce que mon histoire est universelle? Si vous me permettez, je vais vous lire 10 lignes comment j'imaginais mon histoire au français. C'est l'histoire personnelle dans une langue qui n'est pas la mienne.
Allez-y, Vélibre, et puis ensuite on donnera, voilà, donnera la parole à Bessa d'abord et ensuite au public.
C'est quelques lignes, vraiment Bessa, je vais vous
parler. Allez-y,
allez-y.
J'avais un compte.
Ouais, d'accord.
Je me réjouis.
Parle de mon oncle à l'école. À l'école, mon oncle à la maison. Donc le petit chapitre s'appelle mon oncle. Et je commence comme ça. Mon oncle va à l'église. Et tout le temps. Le dimanche, à Noël, le vendredi saint, à le machin truc. Et en plus, il en parle comme s'il n'était pas vraiment grave. Saint Antoine, la Vierge et Jésus, dit-il, ils sont quand même plus forts que Emerson, Lake and Palmer. Ou Marx, Lénine et Tito. Pour ça, ajoute mon père, c'est 3 mois de prison, garanti. T'as de la chance d'être mon frère, sinon. Rien à cirer, rigole mon père, mon oncle. La différence entre le communisme et la prison, c'est que dans chaque prison, il y a une sortie. Puis il y a une bataille à la famille. Je veux lire la dernière page où moi j'hésite. Voilà. Et c'est à vous de juger, est-ce que l'histoire est universelle. Et peu à peu, dans notre maison, comme dans le vrai monde, ce sont ces créés deux blocs. Mon père, mon frère et moi, nous sommes les communistes. Et le reste de la famille, les cathos. Un combat très serré, une décision grave à prendre pour moi. Les délicieux cochons au lait pour Noël ou la parade pour l'anniversaire de notre maréchal. Les superbes gâteaux de ma grand-mère pour Pâques, d'un côté, et de l'autre, la fête de la République yougoslave où l'on chante nos chansons révolutionnaires autour de feu. Les tartines au miel de ma mère quand je récite par cœur « Je vous salue Marie » ou le joli foulard rouge que j'ai reçu en devenir pionnier de Tito. La soupe aux haricots ou le marxisme. Le chocolat aux noisettes ou le socialisme. Dur, très dur de choisir. Et parfois j'hésite. Le monde des idées est très compliqué, mais grâce à mon oncle, je vois un peu mieux. Quand on mange bien, c'est du catholicisme. Et si on n'a rien à manger, mais qu'on chante et danse, c'est du communisme.
Voilà. Merci, Vélibor. Un tout petit mot, Bessa, sur cette question aussi, par rapport à votre écriture. Et peut-être d'ailleurs, nous dire un mot aussi, je disais au début que vous aviez publié des recueils de poèmes, nous dire un mot si cette question du français, de la langue, est plus aiguë, justement, dans l'écriture poétique que dans l'écriture romanesque.
Je peux dire sans hésiter que le français m'a aidé à épurer mon style. Parce que quand vous écrivez dans une langue étrangère, tout sort avec une sorte de contrainte. Et les phrases parasitaires, on ne les utilise pas. Ce qui sort naturellement dans sa langue maternelle. Et on se demande à chaque moment, est-ce beau? Et bien sûr, est-ce indispensable? Mais surtout, est-ce beau? Il faut dire que la beauté n'est pas aussi visible quand elle fait tout le temps partie de nous. Donc dans sa langue maternelle, je me demandais beaucoup moi, est-ce beau? Mais en français, j'étais quelqu'un d'extérieur. Donc la beauté est devenue une sorte de religion, la beauté de la langue, quand j'écrivais en français. Et pendant l'apprentissage de français, j'ai abandonné pour 5 ans ma langue maternelle parce que j'avais besoin de me plonger très profondément dans le français. Et je peux dire que chaque fois que j'allais en vacances en Albanie, quand je rentrais en Suisse, j'avais perdu un peu de ma langue française. C'est comme si j'avais touché mes profondeurs et les profondeurs se vengeaient. Donc pendant 5 ans, j'ai fui les étrangers de peur d'attraper des fautes de français. Et après, il est arrivé un moment où je pouvais m'exprimer en albanais et je pouvais fréquenter des étrangers sans peur d'être influencée dans mon français. Voilà, donc, du point de vue du... Et je peux dire aussi que maintenant, j'écris mieux en albanais après être passée par le français. Et que c'est, je pense, le cas des trois autres invités. Passer par une langue étrangère vous donne une nouvelle conscience de votre langue maternelle. Et c'est un exercice de style extraordinaire et que finalement, ce qu'on perd, on le gagne.
Merci. Est-ce que certains d'entre vous peut-être souhaitent poser une question ou faire une remarque sur ce que vous avez entendu ?
Ou une réponse.
Ou une réponse, bien entendu. Pas particulièrement. Bien, mais écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Je dois signaler que vous pouvez retrouver l'ensemble des écrivains pour des séances de signature. Veli Borčolić sera à 16h sur le stand Actes Sud, hein, si je ne me trompe pas, Veli Bor. Anne, vous y serez, vous, à 16h30 hein, sur ce même stand Actes Sud. On n'a pas eu le temps, évidemment, de parler en détail de votre livre, notamment vous, Anne. Un livre où il est question, pour le dire très vite, hein, aussi de mise en abîme, de livre dans le livre. Et c'est à la fois une histoire d'amour, et en même temps un regard sur l'écriture, sur la création, sur les liens entre réalité et fiction, sur les liens entre autobiographie et écriture romanesque. Enfin voilà, un livre qui est en même temps très ludique et en même temps assez profond, que je vous conseille. On n'avait pas eu le temps de le dire, donc je fais un très bref focus comme ça sur votre livre. Vous, Marius, vous êtes ici, hein, à côté de vos journaux, avec vos livres, donc à la fois Arrêt déplacé et La symphonie du loup. Et puis vous, Bessam Iftiou, on peut vous retrouver tout de suite aussi à partir de 16h, 16h10, le temps que vous vous rendiez à la Société Genevoise des Écrivains, au stand qui est le C546. Allez-y, je vous en prie. Oui.
Donc, servez-vous avec des exemplaires du journal littéraire Le Persil. Et j'ai quelques livres sur moi. Ceux qui veulent des dédicaces, bah, je suis là maintenant tout de suite. Merci.
Voilà, on aurait bien aimé, effectivement, on aurait eu beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce qu'il y a des petites choses qui ont été soulevées par les uns et les autres. Et c'est vrai que j'aurais aimé vous entendre aussi sur la question de l'évolution de la langue, finalement, d'un pays où on ne vit plus. J'aurais aimé vous entendre aussi peut-être sur la manière dont vous envisagez finalement l'avenir et si les sujets que vous avez envie de traiter, la forme que vous donnez à votre roman peut influer sur le choix d'une langue. Enfin voilà, il y avait énormément de questions qu'on aurait pu se poser ensemble. J'espère que ça vous a donné en tout cas un petit aperçu des enjeux comme ça de cette double langue. Je vous remercie tous d'avoir été là et je vous remercie bien sûr tous les quatre de cette rencontre. Merci beaucoup.
Merci à vous.